un peu de musique en votre compagnie, Bruno Tertrais. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de stratégie de relations internationales, auteur de La Revanche de l'Histoire, publié chez Odile Jacob. Et puisque l'on va parler de Kim Jong-un et de Donald Trump, un peu de musique nord-coréenne avec un girls band inventé par Kim Jong-un. Tout à fait entraînant, ça s'appelle le Morambong Bang. C'est un girls band créé donc de toutes pièces par Kim Jong-un en 2012. Kim Jong-un qui est en train donc de rencontrer Donald Trump à Singapour. Jusqu'ici, les discussions auraient été profitables, nous a-t-on dit. Quel est votre sentiment sur cette rencontre avec, malgré tout, une évolution très étrange, puisqu'il y a peu, on nous prédisait une fin du monde autour donc de cet affrontement entre Kim Jong-un et Donald Trump, et aujourd'hui, on met en scène une entente cordiale. Quelle est la vérité, Bruno Tertrais?
Les deux sont vrais. Avec Trump, on peut passer de l'un à l'autre en 24 heures, littéralement. Regardez ce qui s'est passé pour ce sommet, justement, où on avait des tweets enthousiastes de Donald Trump, et puis quelques jours plus tard, une lettre qui était une lettre déchirante, une lettre de rupture, une lettre d'amoureux déçu, presque, de Donald Trump, disant « Je suis désolé qu'on ait annulé ce sommet, vous m'avez trompé ». Donc avec Trump, on peut, d'ici trois jours, avoir de nouveau des tweets incendiaires. On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que ça s'est bien passé du point de vue du protocole de l'image. Tout est parfait jusqu'à présent. La rencontre est quasiment terminée. Mais je note quand même que ça s'est déroulé en un petit peu moins de temps que prévu. Ils avaient un créneau de deux heures pour leur discussion. Ça n'a duré que trois quarts d'heure.
Peut-être qu'ils se sont mis d'accord plus vite.
Écoutez, être d'accord sur les grands principes, c'est toujours facile. Et s'ils se sont dit « Est-ce que tu es d'accord pour dénucléariser et faire la paix avec la Corée ?» Je suis sûr que l'autre a répondu « Oui, bien sûr ». Évidemment, le diable est dans les détails.
Le diable est dans les détails et notamment, il y a un détail singulier, c'est qu'il manque une personne sur la photo, ou en tout cas un pays, la Corée du Sud.
Oui, alors que ce pays a quand même joué un rôle indirectement dans la scène diplomatique à laquelle nous assistons, puisque on est dans une configuration dans laquelle le président sud-coréen, le président Moon, est un vrai pacifiste, presque naïf selon certains. En tout cas, il a permis de préparer le terrain d'une certaine manière avec la diplomatie olympique, avec la sœur de Kim Jong-un qui est venue à Pyeongchang lors des Jeux olympiques. Il a permis aussi ce premier sommet, c'est-à-dire cette poignée de main entre ce premier sommet, en tout cas c'était le troisième avec un président sud-coréen, mais le premier où on a vu les deux leaders de chaque côté de la zone démilitarisée faire un pas sur le territoire de l'autre, donc ça fait partie de l'ambiance.
Mais les situations ne sont pas les mêmes pour la Corée du Nord et la Corée du Sud. La Corée du Sud est peut-être aujourd'hui un pays affaibli.
La Corée du Sud n'est pas un pays affaibli sur le plan économique. C'est quand même aujourd'hui une grande puissance économique. La Corée du Sud, on l'oublie parfois en France. Mais en tout cas, c'est un pays qui n'est pas au centre du jeu. Là, c'est vrai qu'elle est un petit peu l'objet de la discussion plutôt que le sujet.
Ce que je voulais dire par affaibli, c'est tout d'abord une croissance qui marque le pas.
Oui,
et ensuite, une situation politique qui a été assez tumultueuse, puisque récemment, une partie de la classe dirigeante a été accusée de corruption, une partie aujourd'hui sous les verrous. Donc, peut-être pas dans une situation aussi favorable qu'on aurait pu l'imaginer il y a quelques années.
Oui, les Sud-Coréens, moi j'ai eu une journée de discussion avec eux il y a quelques jours. Très honnêtement, ils sont un petit peu entre deux eaux. D'un côté, ils espèrent énormément de ce qui peut se passer, et d'un autre, ils craignent un petit peu les réactions un petit peu intempestives et impulsives de Donald Trump. Donc ils sont un peu partagés. Ils ne sont pas en tout cas leaders aujourd'hui dans ce qui se passe à Singapour.
Parce que vous diriez que la diplomatie nord-coréenne est aujourd'hui celle qui a tiré son épingle du jeu. La Corée du Nord est un petit pays ruiné qui réussit malgré tout à discuter d'égal à égal. C'est ce que l'on voit avec les États-Unis. C'est donc à cet égard une grande victoire.
C'est une grande victoire, bien sûr. C'est le premier résultat, le principal résultat d'ailleurs à mon sens de ce sommet. C'est la photo, littéralement. C'est de voir le dirigeant nord-coréen et le président américain sur un pied d'égalité. Le protocole, bien sûr, a tout fait au millimètre pour bien montrer que les deux pays étaient sur un pied d'égalité. C'est pour ça que c'est une victoire extraordinaire pour Kim Jong-un. Il ne faut pas oublier non plus que ça lui donne une légitimité interne encore plus forte, car il ne faut pas oublier que même les dictateurs ont parfois besoin de se relégitimer à l'intérieur. Donc le résultat du sommet, il est là, il est déjà là, c'est l'image, c'est une immense victoire pour la Corée du Nord, bien sûr.
Légitimité, mais aussi peut-être prime à des gens, je vais le dire de manière polie, à des gens imprévisibles. Alors vous avez parlé de l'imprévisibilité de Donald Trump, nous en reparlerons. On pourrait aussi évoquer le caractère impétueux de Kim Jong-un.
Oui, mais dans le monde d'aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que vis-à-vis de Donald Trump, Kim Jong-un apparaît, d'ailleurs, et à mon sens c'est vrai, comme quelqu'un de beaucoup plus prévisible et de beaucoup plus rationnel. C'est-à-dire que nos standards ont complètement explosé, d'une certaine manière. On avait des présidents américains qui étaient traditionnellement quand même largement plus prévisibles que les dirigeants nord-coréens. Aujourd'hui, c'est l'inverse, et je crois que Kim Jong-un le sait, et en joue très largement. Il a réussi à faire changer totalement l'image de ce que c'est qu'un dirigeant nord-coréen, et je crois que sa stratégie est en fait tout à fait prévisible et rationnelle.
Mais alors, vous, Bruno Tertrais, qui êtes spécialiste de relations internationales, ça veut dire que l'on peut insulter quelqu'un, puisque Donald Trump et Kim Jong-un ont échangé des noms d'oiseaux. Il y avait Little Rocket Man pour Kim Jong-un. On peut échanger ces noms d'oiseaux et quelques semaines après s'installer à une même table pour évoquer des pourparlers de paix.
Oui, ça n'a rien d'extraordinaire. Regardez à la buvette de l'Assemblée nationale, regardez ce qui se passe. On peut très bien s'envoyer presque des injures et en tout cas être extrêmement critique envers ses adversaires politiques et puis, 5 minutes plus tard, boire un coup à la buvette. Hein. Vous savez, c'est du théâtre, la diplomatie est du théâtre comme la politique est du théâtre.
Oui, mais il y avait une dimension qui était une dimension de l'ordre de la vanité dans les propos que s'échangeaient ces deux hommes. Et la vanité, les blessures d'amour propre sont des blessures qui se guérissent mal.
Vous avez raison de le souligner. Je crois que dans le cas de ces deux dirigeants, c'est vrai aussi. Mais peut-être encore plus du côté de Donald Trump que du côté de Kim Jong-un. J'ai l'impression que celui des deux qui a le cuir le plus solide, celui des deux qui est le moins infantile des deux, c'est plutôt le Nord-Coréen plutôt que le président américain qui, je suis désolé de le dire encore une fois, mais qui bat tous les records d'infantilisme juvénile qu'on a vu pour un dirigeant occidental depuis des décennies.
Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Puisque donc l'enjeu, ce serait de dénucléariser la Corée du Nord. La Corée du Nord, y a-t-il intérêt? Est-ce que c'est envisageable pour un pays comme celui-ci d'abandonner son arsenal nucléaire?
C'est totalement inenvisageable, mais ils vont dire quand même qu'ils vont le faire. C'est inenvisageable.
Bruno Tertrais.
c'est inenvisageable parce que premièrement, c'est justement l'acquisition de cette capacité balistique et nucléaire qui a permis à Kim Jong-un, qui est le premier dirigeant nord-coréen, à disposer de la capacité de frapper le territoire américain. Donc, de son point de vue, c'est ça qui a permis ce sommet. Alors que Donald Trump, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un grand malentendu, Donald Trump estime que, au contraire, c'est la pression maximale, comme il dit lui-même, qui a amené Kim Jong-un à finalement faire un pas vers les États-Unis. Il y a un grand malentendu, et je crains d'ailleurs le moment où Donald Trump va découvrir ce grand malentendu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le communiqué qui va être produit dans les minutes ou les heures qui viennent, il y aura certainement le mot « dénucléarisation ». Hein. Le problème, c'est qu'ils n'entendent pas du tout ce mot de la même manière. Pour Donald Trump, c'est « bon, bah maintenant, on va avoir un calendrier, vous allez maintenant commencer à démanteler ceci, cela. » Alors que pour Kim Jong-un, la dénucléarisation, ça veut dire « oui, je suis tout à fait d'accord pour l'abandon des armes nucléaires. Vous commencez quand, vous, Américains ?» Ça va être « moi, je suis d'accord pour dénucléariser, si tout le monde dénucléarise. » Et donc, évidemment, il y aura ce terme dans le communiqué, mais je ne crois pas une seconde que Kim Jong-un ait envie et même la possibilité de démanteler ses armes qui font partie intégrante de l'identité nationale, l'identité politique du pays, au point d'ailleurs d'avoir été inscrite dans la Constitution.
Mais alors, ça veut dire que vos propos donc laissent augurer d'un avenir inquiétant. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, dans quelques mois, dans quelques années, une sorte de situation entre les États-Unis et la Corée du Nord qui serait proche de celle que l'on observe entre les États-Unis et l'Iran aujourd'hui ?
Ah oui, tout à fait. Simplement, il y a une méconnaissance américano-nord-coréenne réciproque qui là, alors je vais quand même dire quelque chose de positif ce matin. Il est toujours bon que les dirigeants se connaissent. Il est toujours bon que des animaux politiques comme Donald Trump et son homologue nord-coréen puissent se renifler personnellement parce que l'incompréhension mutuelle est toujours un facteur de tension, voire un déclencheur de crise et de conflit. Donc, on ne peut pas dire que ce sommet ne sert à rien pour la paix dans le monde. Hein. C'est toujours utile. Mais, encore une fois, on peut tout à fait se retrouver dans 3 mois, dans 6 mois, dans une situation totalement différente.
Mais alors, pourquoi faire la paix, ou pourquoi vouloir la faire, en tout cas, avec la Corée du Nord, et préparer quelque chose qui ne ressemble pas encore à la guerre, mais qui est malgré tout une tension forte sur le plan diplomatique entre l'Amérique et l'Iran, Bruno Tertrais.
Parce que du point de vue de Donald Trump, et ça je crois qu'on l'a pas assez dit, c'est exactement la même chose. Du point de vue de Donald Trump, c'est la pression maximale, encore une fois j'utilise ses propres termes, qui fonctionne avec la Corée du Nord, et c'est elle aussi qui va fonctionner avec l'Iran. Autrement dit, si dans un an, on disait à Donald Trump, vous avez la possibilité de rencontrer le guide suprême iranien, je pense qu'il dirait oui, figurez-vous, même si je crois pas que du côté iranien, ça serait possible. Mais c'est vrai que du côté américain, en tout cas du côté du président américain, parce que cette idée n'est pas partagée partout, c'est la même chose. On dit, bah voilà, je suis prêt à tout, je suis prêt à rencontrer tout le monde du moment que c'est à mes termes, à mes conditions. Et c'est là que je pense qu'il y a un malentendu entre les États-Unis et la Corée du Nord.
Et oui, parce que vous ne croyez pas en la réussite de la stratégie de la pression maximale.
Je ne pense pas que cela puisse fonctionner de cette manière avec un pays comme la Corée du Nord ou un pays comme l'Iran. Mais attention, je suis pas en train de tout de dire qu'il faut faire des grands sourires et simplement avec des concessions vis-à-vis de l'adversaire, tout marchera bien. Non, pas du tout. Simplement, je crois qu'il y a encore une fois une manière de voir les choses de la part de Donald Trump qui est totalement illusoire. Il n'empêche que les sanctions, par exemple, ça peut servir, on l'a vu avec l'Iran, et on l'a vu aussi avec la Corée du Nord, parce que c'est vrai que c'est pas totalement négligeable aussi quant à la manière dont la Corée du Nord se voit sur la scène internationale, et surtout réussit à maintenir, parce que les dirigeants veulent avant tout se maintenir au pouvoir, je ne vous l'apprends pas, Guy Bernard. Donc je crois que les sanctions aussi, ça fait partie du calcul nord-coréen, alléger les sanctions, bien sûr.
Bruno Tertrais, il y a dans votre profession, spécialiste en relations internationales, et peut-être dans la mienne d'ailleurs, chez les journalistes, une propension à voir une fin du monde par semaine ou presque. Il y a eu la fin du monde avec l'Iran, il y a eu aussi, certains s'en souviennent, la fin du monde avec la Corée du Nord. Est-ce qu'on a tort ? Est-ce que finalement les relations internationales sont plus résilientes qu'on le dit ?
Je crois qu'on a parfois tendance, effectivement, dans votre milieu comme dans le mien, à exagérer un petit peu les risques de guerre, les risques de conflit. Mais c'est vrai aussi que l'actualité nous donne tellement de sujets d'inquiétude réels que c'est vrai que c'est parfois tentant. Et puis c'est aussi notre métier, et j'imagine le vôtre aussi, de dire attention, il y a des risques que vous ne voyez peut-être pas, mais qui sont tout de même sérieux. Par exemple, entre la Chine et les États-Unis, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais la question de Taïwan, qui est une question centrale dans les relations entre les deux pays depuis 1949, et à mon avis le seul vrai motif de guerre possible entre les États-Unis et la Chine.
Ah oui, pourquoi ?
Expliquez-nous. Parce que c'est au cœur de l'identité politique chinoise, ce grand rêve de réunification finale entre Taipei et Pékin, et c'est aussi ça qui a amené déjà dans les années 50, Washington et Pékin, presque à se faire la guerre nucléaire. Donc on n'en parle pas beaucoup, et pourtant c'est une question montante, il y a des petits signes qui montrent que c'est vrai que c'est une question qui est en train de devenir de plus en plus prégnante dans les rapports entre les deux pays.
C'est-à-dire que la Chine essaye de reprendre la main sur Taïwan, qui a malgré tout un statut statut extrêmement particulier.
Oui, effectivement, c'est un pays avec lequel très peu d'États ont des relations diplomatiques, hein, mais dans les faits, c'est un État quasi indépendant dans son mode de fonctionnement. Simplement, il n'est pas reconnu comme tel par la majorité des États du monde. Et bien sûr, la Chine n'a pas l'intention d'envahir Taïwan du jour au lendemain. C'est plutôt une stratégie intelligente de pression sur l'île pour l'amener doucement dans le giron de la mère patrie. Mais pourtant, c'est une question à laquelle il ne faut pas accorder une grande attention parce que les États-Unis sont dans les faits engagés à défendre Taïwan en cas de problème.
Mais alors pourquoi ? Parce que Donald Trump ayant une position donc qui relèverait sinon de l'isolationnisme, du moins en tout cas est dans une perception américano-centré du monde, pourquoi irait-il défendre Taïwan ?
Ah, c'est évidemment, vous venez de prononcer le mot qui fâche, c'est-à-dire Trump. Autrement dit, et c'est ça le problème de la politique américaine aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas comment vont fonctionner les États-Unis demain, avec d'un côté Trump et de l'autre côté, j'allais dire, presque le reste des États-Unis. La stratégie de Donald Trump n'est pas toujours la stratégie du Pentagone. Les engagements de défense pris par les États-Unis, on ne sait pas ce que Trump va en faire demain. C'est pour ça d'ailleurs que bien des pays européens s'inquiètent sur la manière dont l'Amérique les voit aujourd'hui. Est-ce que l'Amérique les protégera toujours vis-à-vis de la Russie, par exemple ? C'est une grande question. Donc, c'est la grande question d'aujourd'hui. Est-ce que Trump va maintenir ses alliances ? On peut se demander si finalement la stratégie américaine aujourd'hui, plutôt la stratégie de Trump, encore une fois j'insiste sur la distinction, c'est les alliés on s'en fiche, les adversaires aussi. Il est prêt à tout. Il est prêt à faire la paix à tout le monde et malheureusement peut-être aussi à faire la guerre à tout le monde.
Est-ce que ça renvoie à une période connue et étudiée par vous, Bruno Tertrais, ou bien la situation est-elle complètement inédite ?
C'est une très bonne question. Je crois qu'il y a trois niveaux. Premièrement, les États-Unis ont toujours été, il y a toujours eu cette tendance unilatéraliste et parfois isolationniste. Ça fait partie de la culture politique américaine depuis deux siècles. Il y a dans le camp républicain, chez les républicains, une tendance particulière, effectivement, à cet unilatéralisme. Je vous donne un parallèle, par exemple. Donald Trump s'est retiré de l'UNESCO, Ronald Reagan avait fait pareil. Bon. Et puis, il y a chez Trump, ça c'est le troisième niveau, alors là, quelque chose qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu ça à ce point-là, si vous voulez. Donc, il y a quand même un phénomène Trump, un particularisme Trump.
On en parle dans quelques minutes, aux environs de 8h20, Bruno Tertrais, vous qui êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous serez rejoint par Laure Mandeville, qui est grand reporter au Figaro et qui connaît bien la question Donald Trump. On évoquera également les suites politiques de la stratégie de Donald Trump, une stratégie qui semble payer, en tout cas en matière de politique intérieure, aux États-Unis.